Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
Tonight we're lucky enough to have with us probably the most language-oriented of all graffiti artists in New York, Samo, and his associate.
Samo, right?
Samo, sorry.
It's Mr. Samo.
Sorry, Mr. Samo.
N-E-W-Y-O-R-K, that's New York, man.
Lot number 9, so we move to the dust, says Sebastian. Lot number 10, and we'll open this at 20, 21 million, $22 million.
Salle des ventes, chez Christie's, New York, mai 2013.
Am I offered 24? 24 I have. Give me 25, it's here. At 27, 28 with Monsieur Guzer. That's the way we spell New
York, Jim. This is Basquiat's grave, Jean-Michel Basquiat's grave.
Ça, c'est la tombe de Jean-Michel Basquiat.
Yeah, we're in Greenwood Cemetery.
On est au cimetière de Greenwood, à Brooklyn,
section 13.
Sur la section 13.
And today is
Et aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2013.
Which makes 25
ça fait 25 ans que Jean-Michel est mort.
Jean-Michel died. I've got cocaine running around
my brain. Al-Diaz, vous étiez un ami proche, un ami d'enfance de Jean-Michel Basquiat. On est là devant sa tombe, donc né en décembre 1960, décédé en août 1988, c'était il y a 25 ans. Sur cette plaque assez modeste, il y a des gens qui ont placé des pièces de monnaie, des bagues, des fleurs en plastique, des bouts de pierre, des roses, le Guernica de Picasso, un drapeau américain.
Oui, c'était une icône, une superstar. C'est pour ça que tout le monde voulait un petit morceau de lui.
Not yours, Brett. It's with Loïc at $43,500,000. Here it is. Last chance. I wanted a spell for me. Sold at $43,500,000. Lot number 9, so we move to the dust, says Sebastian. Lot number 10.
Ta tête de poussière. Ouais, je connais ce tableau et puis j'ai rencontré Jean-Michel Basquiat parce que moi j'ai eu la grande chance d'habiter à New York entre 83 et 86.
Hervé Di Rosa.
En fait, vous savez, Basquiat, c'est souvent ces grandes têtes très influencées par Dubuffet. Ça a un rapport avec l'art brut, ça a un rapport un peu avec l'art des fous, etc. C'est des choses très enlevées. C'est entre l'art brut et l'expressionnisme américain. Donc il a trouvé vraiment une vraie écriture nouvelle. Bien sûr, il y a cette souffrance à l'intérieur de cette peinture, mais il y a aussi quand même un espoir, quoi. Il y a un espoir dans l'énergie fulgurante. Même si cette énergie fulgurante doit vous faire mourir, l'important, c'est de la transmettre pour que vous ne soyez pas mort pour rien, quoi. Je pense que Basquiat n'est pas mort pour rien, parce que je pense qu'il a transmis cette énergie à des millions de nouveaux artistes, à des millions de gens. C'est pour ça que ses œuvres aussi sont aussi importantes aujourd'hui, et on se les arrache à des prix fous, parce qu'elles étaient visionnaires. Moi, je pense qu'elles étaient visionnaires de ce qu'il allait se passer aujourd'hui. Bon, quant à ce qui est maintenant que lui vaille 50 millions de dollars et que d'autres de sa génération ne valent pas ce prix-là, moi je me pose des questions. Vous savez, et Basquiat, on paye aussi le prix, que c'est un artiste qui est mort à 30 ans, on paye beaucoup de choses quand on achète une œuvre 50 millions de dollars. Le collectionneur paye pour sa reconnaissance sociale aussi, paye aussi pour son classement parmi les grands collectionneurs. Les collectionneurs en fait achètent une partie, achètent la chair, le sang et la peau, achètent... c'est ça qui donne la valeur à une œuvre, je pense, quand il y a une vraie présence physique dans l'œuvre.
So this is the Basquiat of 1982 showing here on the easel, Furious Man. And I'm going to open this at 800, 900, at 900, 1 million with Amy, 1 million 100, 1 million 200, 1 million 300, 1 million 400, 1 million 5, 1 million 6, 1 million 7.
Ce qui s'est passé aujourd'hui est très spécial dans ma vie de collectionneur. Ça fait 30 ans que je collectionne les antiquités, les tableaux anciens américains.
Jerry Loren, cofondateur de Ralph Lauren.
I have antique American weather vanes. Rare, very rare, which you cannot find.
J'ai des pièces très rares, vous savez. Ma collection se trouve chez moi dans le Connecticut. C'est une maison très ancienne qui date de 1785.
Basquiat.
Et là, je viens d'acheter un Basquiat.
I was not going to walk away without
it. Je n'aurais pas pu repartir sans.
Luckily, I was able to get it, but
j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Ça m'a coûté une fortune. Je ne sais même pas vraiment combien. Vous savez, à un moment, je ne compte plus.
So anyway, I was very excited, and this is my first Basquiat.
Donc je suis très excité par cette vente. C'est mon premier Basquiat et les couleurs, la pensée qui émane de cette peinture. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais c'est très très fort. Basquiat était très cultivé, mais il a aussi une vie de fou. Je ne la connais pas vraiment dans les détails, mais il a été exposé à beaucoup de choses et il est mort très jeune. Moi aussi, j'ai grandi à New York, dans les rues, je connais le graffiti, je connais cette jeunesse et je m'identifie à ça. Et vraiment, j'adore son travail, je suis très ému d'avoir mon premier Basquiat.
Vous allez le mettre dans votre bureau ?
Ah, je vais le mettre chez moi, oui. Je pense même que je vais dormir avec ce soir.
Beaucoup de gens aimeraient dormir avec Basquiat.
Oui, mais non, pas comme ça. Bah, c'est la peinture.
Un jour d'été, à New York, en voiture avec Stephen Thornton, l'assistant de Jean-Michel Basquiat, et Al Diaz, son ami d'enfance. Donc, Stephen, on est en retard, vous avez plein de rendez-vous, on est dans une voiture, où est-ce qu'on est ?
On est devant le Bowery Hotel, qui est sur le Bowery et 3e rue à New York. Qui était un endroit à la fois agréable, historique et mythique dans l'histoire, tant de Basquiat, tant de nous tous. C'est extraordinaire. C'est 3e rue, c'est là, comme dans les années jazz, la 52e rue Uptown, c'était là où Miles Davis, tout le monde enregistrait, tout le monde passait, parce que Midtown, dans les années 50, c'était très cool. Et dans les années 80, la 3e rue, c'est à la fois là où Basquiat vivait, où il est cédé, sa maison, qui était une très jolie petite villa en ville, qui Andy Warhol était le propriétaire, qu'il a loué à Basquiat, et où il a séjourné ces dernières années et fait beaucoup de son travail, je crois, de 84 ou fin 83 jusqu'à sa mort en 88. Il est mort. Can you guys just lower it a little bit so I don't have to scream so loud?
Qu'est-ce que Jean-Michel Basquiat doit à New York? Alors, si on doit, puisqu'on est dans cette voiture en train de traverser New York, qu'est-ce que Jean-Michel Basquiat doit à New York? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce que New York lui a donné?
Et non seulement il doit rien et tout, mais il est New York. Il incarne New York, il a motivé New York, il a aspiré, il a représenté, il a peint New York, il a fait la décoration, il a survécu New York, il est mort grâce à New York. Il est synonyme avec New York quelque part.
New York chic, yeah. He's hippie chic, yeah. Son style, son look, c'est pas Jean-Paul Gaultier, you know. Je sais pas.
Comme il s'habillait, il était tout différent. Un peu punk, un peu hip-hop, un peu Jean-Michel, quoi. Comme dans la peinture, il a mélangé toutes les influences. He stood out in a crowd.
Mais c'est sûr qu'il a un regard, que ses yeux te coin, te traversent. En même temps, on a l'impression qu'il te regarde à travers toi, il ne te voit même pas, que tu penses qu'il te voit mieux que personne. Et avec Jean-Michel, on peut parler toujours des choses et le contraire, parce qu'il était très contradictoire. Il était doux, il était fermé, mais il était très accueillant et très gentil. Il était très sûr de lui et très timide. Et très, il parlait comme ça un peu, et il était insécure, mais il avait une énorme certitude de certaines choses. Et dans le regard, je peux dire la même chose. Il était complètement fermé et ouvert en même temps.
C'est hippie chic, yeah. New York chic, yeah. C'est New York stuff. You gotta be from New York.
Toxique, artiste.
De mettre un costume, une cravate, c'était d'être cool comme les musiciens de jazz. You know, pour nous, c'était ça. Tu gardes un musicien de jazz, c'est Mr. Class, là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Les vieilles pochettes des disques de Charlie Parker et tout ça sont des mecs qui ont une grande classe. Mais Jean s'y met une veste de 3 000-4 000 $ et c'est aller dans son atelier et mettre la peinture dessus. Lui, il s'en fiche de tout ça. C'était, je pense que pour lui, c'était seulement de voir les visages des gens qui lui avaient 3 000 $ cash dans sa poche pour acheter quelque chose. Et lui, il semblait tout en clochard, mais avec les belles vêtements. C'était tout en salle de peinture. Mais oui, c'était les belles vêtements.
He definitely wasn't elegant.
n'était certainement pas élégant. Non, pas du tout. C'était un gars avec des dreads, un peu clodo, pas très soigneux. Il ne prenait pas beaucoup de douches.
Lisa Cooper, ami noctambule.
Elegant? Non, il n'était pas du tout élégant. Il était même assez direct, assez brut. Et douloureusement honnête.
Honest.
And he was high all the time. Et puis, il planait tout le temps. Donc, parce que l'héroïne a cette énergie spécifique. Je me souviens d'ailleurs d'avoir parlé de ça avec William Burroughs. Enfin, disons qu'il y a une manière très romantique d'appréhender l'addiction de quelqu'un. Et puis, il y a la perception réaliste, surtout quand tu y es confronté au quotidien. C'était difficile de faire des projets avec Jean-Michel parce qu'il pouvait avoir 7 heures de retard. Et quand tu as un rendez-vous pour dîner, ça peut devenir ennuyeux, surtout quand ça se répète. Moi, je l'aimais énormément parce que, comme moi, il aimait parler pendant des heures de tout et de rien. Enfin, lorsqu'il arrivait. Et puis, après qu'il soit là, tu pouvais mettre des jours à te débarrasser de lui, ce qui est aussi génial. C'est ça, l'amitié. Et puis, New York, c'était autre chose à l'époque. On pouvait passer 3 jours avec quelqu'un, ou simplement aller de fête en fête. Et aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment où traîner avec quelqu'un pendant 3 jours.
Downtown, mais c'était pas downtown, c'était le town, parce qu'on n'avait aucun rapport avec uptown. C'était une vie de quartier très forte, très intense, à pied. Et les boîtes étaient les bureaux, c'est là où les musiciens rencontraient un autre batteur, c'est là où un scénariste rencontrait la personne pour jouer dans leur film de Super 8. C'était très... Les gens travaillaient, c'était pas que la fête. Les gens croient qu'on faisait que la fête, mais en fait les gens étaient très 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 concentrés dans leur petit truc. On ne faisait pas du scooper, on ne faisait pas du gym. Tout le monde, ils vivaient une seule chose, c'était leur petit rêve qui les a fait venir à New York. Presque tout le monde venait d'ailleurs. Jean-Michel Basquiat vient de New York. Après, la liste est très difficile. Il y en a très peu. Personne ne vient de New York. Tout le monde venait à New York pour être eux. Les gays, les artistes, les danseurs, ils venaient ici parce que c'était le seul endroit possible de faire ces trucs. Basquiat était un petit épicentre. Écrivaient sa mot, eux ils étaient des jeunes qui entraient dans la scène artistique, qui étaient les gamins locaux qui avaient déjà une pêche, et que les gens qui venaient des autres villes ont trouvé des locales quoi.
New York, années 80, d'un côté et de l'autre du pont de Brooklyn, voici l'histoire d'un gamin local, l'histoire d'un artiste que la postérité a enfermé dans une icône d'éternel enfant, d'enfant terrible ou d'enfant radieux, Basquiat, The Radiant Child, une sorte de Peter Pan de New York qui ne dépassera pas les 27 ans, consumé par les paradis artificiels. Voici l'histoire d'un gamin de 16 ans, un peu turbulent, qui cherche comment exprimer un bouillonnement intérieur face au mur. Avec sa crête punk peroxydée, il lit Mark Twain, Mallarmé, Williams Burroughs, reste des heures devant le Guernica de Picasso, se passionne pour la BD et asperge de mousse à raser le proviseur de son lycée. Il s'appelle Jean-Michel Basquiat, 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 Bousquiat, mais il va se faire connaître avec une autre signature, un coup double avec son copain de lycée, Al Diaz. À deux, dans les rues de New York, ils sont Samo, S-A-M-O, pour Same Old Shit, toujours la même merde, un acronyme couronné du C entouré. Samo, copyright Samo. Samo sauve les idiots, Samo, une goupille qui se laisse tomber comme une odeur piquante, Samo, une alternative à Dieu, Samo, dans un New York au bord de la faillite, Samo, copyright Samo.
We first used the expression Samo.
On a commencé à utiliser cette expression Samo pour décrire la maison d'une amie chez qui nous allions fumer de l'herbe. On fumait avec ses parents. Et c'était devenu une telle routine qu'on a commencé à parler d'eux en disant « Samo, toujours la même merde » parce qu'on faisait toujours la même chose. Et ils disaient toujours la même chose. Et puis c'est devenu notre expression. « Samo ceci, Samo cela ». À cette époque, on s'occupait du journal du lycée. Et Jean-Michel avait écrit un article à propos d'une religion qui te permettait de faire ce que tu voulais sur Terre. Et lorsque tu arrives au paradis ou au purgatoire, tu pouvais dire que tu ne savais pas que ce que tu faisais était mal ou interdit. L'article était signé « Samo ». Et puis après, l'expression est devenue populaire dans notre cercle d'amis. Cette expression, Semo. Et moi, à l'époque, je faisais des graffitis. Alors j'ai voulu utiliser Semo pour signer des graffitis basés sur du texte. Parce qu'on adorait écrire et faire des commentaires. On était jeunes à l'époque. J'avais 18 ans et lui en avait 16. Mais on aimait réfléchir. À l'époque, on s'intéressait au monde de l'art et on faisait des commentaires sur la superficialité de cet univers ou sur la mode. Tous ces gens qui étaient des robots. Et Semo était devenu une alternative à tout ce que l'on critiquait. C'était une entité mystérieuse.
À cette époque, à New York, tu avais l'impression d'être seul au monde. Il y avait un esprit de camaraderie entre les gens.
Lee Quiñones, artiste.
Mais la ville, c'était le chaos. Mais les gens étaient solidaires. À l'époque, je partageais un atelier avec un ami artiste et on a invité Jean-Michel à peindre avec nous. Donc c'est dans cet atelier de Chinatown qu'il a fait ses premières toiles, celles qui ne sont pas les plus connues, celles qui datent de 1979. Et il y avait un vent de liberté. On disait, ah, ce soir, faisons une fête comme ça, juste pour le fun. On préparait des toiles juste pour ces fêtes. Et Jean a commencé là. C'était nos premières toiles sur châssis. On était très sérieux et appliqués à travailler dans un atelier et non pas simplement dans le métro ou dans la rue. Jean vivait vraiment dans la rue. Il n'avait aucune idée de sa trajectoire future. Aucun de nous, d'ailleurs. On ne savait pas que quelques années plus tard, le monde de l'art serait transformé et nous regarderait avec des grands yeux en disant « Waouh !» Notre environnement était très chaotique, c'était très improvisé, il y avait de la peinture partout. Mais notre atelier, c'était un sanctuaire pour nous.
Marie-Sophie Caron de la Carrière, commissaire de l'exposition Basquiat en 2010 au Musée d'art moderne de la ville de Paris.
Pour les connaisseurs de Basquiat, les connaisseurs ont tendance à valoriser les premières œuvres des années 80, 80, 82, qui sont des années très précieuses parce qu'on voit comment, en quelques mois, il peut se détacher de ce mur qui était son premier support pour ses textes qu'il écrivait dans la ville et devenir le peintre qui va donc s'emparer du format de la toile qui va devenir de plus en plus important. Et donc, dans cette toile où on voit une ambulance, c'est-à-dire une voiture avec une croix, tout ça est fait de façon sommaire, comme un dessin d'enfant, et on voit même une forme de marelle sur la peinture qui renvoie aussi à ce qui se trouve à même les trottoirs de la rue. L'aérosol est aussi une technique favorite, et le pastel gras aussi, on retrouve tous les ingrédients qu'il va utiliser pour les toiles à venir. Là, il signe encore sa mot.
Vous avez commencé à taguer les murs ici un peu partout à Manhattan.
Oui.
Al Diaz.
Jean n'était pas un graffeur. Mais il s'y est mis très facilement. Il n'avait pas peur de taguer devant des gens ni de se faire prendre. Je me souviens qu'une fois, on a voulu faire un tag Semo sur la galerie de Léo Castelli. Il était très connu à l'époque. Et je savais que Jean rêvait de faire ça depuis longtemps, car il voulait provoquer Castelli. Donc je faisais le guet. Mais Jean ne partait pas, et il est resté jusqu'à ce que Léo Castelli sorte et lui dise « Qu'est-ce que vous faites ? C'est du vandalisme !» Et Jean n'attendait que ça. On était tout le temps dans le bas de la ville. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître dans Soho, Tribeca. Qu'on a commencé à connaître le milieu des artistes de l'époque. Et ils sont devenus la cible de nos commentaires. On rêvait d'attirer l'attention de ces adultes. Bien sûr qu'on voulait réussir. Mais lorsque c'est arrivé, c'était une énorme surprise. Surtout quand on a su que Village Voice et Soho Weekly News nous cherchaient. Et puis, au fil des décennies, on a fini par faire partie de l'histoire de l'art. C'est étonnant.
Et donc, ce qui m'a fasciné, et c'était surtout cette énergie positive qui a lié les musiciens, qui a lié les danseurs, qui a lié les graphistes, les artistes, etc. Cette énergie-là, nouvelle. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient portoricains ou noirs. Hein. Bon, on parle de Jean-Michel Basquiat. C'était un phénomène politique aussi et sociologique très important. Moi, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé aussi, c'est que je rencontre des artistes de mon âge qui font pas pareil que moi, mais enfin, qui font des peintures, des images, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans les galeries à l'époque, soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique? C'était l'art minimal, l'art conceptuel, l'arte povera en Italie, support surface en France, c'est-à-dire on avait des installations, des morceaux de pierre, une branche d'arbre, trois cailloux. Enfin, je simplifie méchamment là, parce qu'il y a des grands artistes dans ce domaine, mais il n'y avait pas d'image, ni en couleur, ni en noir et blanc. Le pop art était déjà vieux, tout ça, mais c'était des artistes qui faisaient de la citation. Il prenait des images qui existaient dans le monde réel, il citait ces images avec un a priori critique dessus, avec une critique de la société à travers des images qu'il récupérait. C'était pas ce désir de repeindre des formes, des images directement compréhensibles par un néophyte, quoi. Ça, c'était très important aussi. Ce que Basquiat essayait d'amener là, il essayait d'amener au plus grand nombre une autre image du corps humain, par exemple. Là, on voit que c'est une autre image du corps humain, une autre image de la composition, une autre image des matériaux, une autre image. Puis aussi, on a été marqué par tout ce qui était le mouvement punk aussi. Des jeunes qui sont arrivés d'Angleterre et des États-Unis, il y avait des guitares toutes pourries, des amplis toutes pourries, sans savoir jouer deux notes. Ils avaient envie de dire un truc, et ils l'ont dit. Et moi, c'était pareil. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent pour me payer des toiles sur châssis. Et donc, je payais sur des morceaux de carton, sur des draps de lit. Et j'étais pas non plus un génie de la technique, loin de là. On a été toute une génération, je pense, que ce soit Basquiat, Kissaring ou tous mes comparses français, à avoir envie de dire quelque chose sans forcément en avoir les moyens, ni les moyens techniques, ni les moyens de l'expérience et de l'apprentissage. Et donc, c'est pour ça que je relie beaucoup ça à la révolution punk, qui a été vraiment... justement, le mot des punks, c'est nos futurs, mais en fait, en disant ça, c'était vraiment eux qui ont amené le futur, quoi.
Tout était projeté pour le futur, parce que le moment que nous vivions à cette époque, c'était nous avions ce besoin de changer la menu. C'était à ce moment, c'est commencé cette mix des gens uptown et downtown, et c'était une bonne scène. Et ici dans l'East Village, j'étais plein de musiciens. Avec Jean-Michel, j'ai été présenté à John Lurie et les Lounge Lizards, Tom Waits. Et Jean jouait les instruments, la clarinette, je pense, comme ça. Ramosi, il chantait, il faisait la musique et tout ça. C'était vraiment stimulant. Parce que nous vous défait les spectacles, ok, viens à notre vernissage, tu peux jouer la musique à notre vernissage. Et mes amis musiciens, ils mettent les toiles, je joue là, tu peux faire la chose sur la scène. So, c'était tout en un échange.
Voilà, une série de portraits de grands boxeurs américains d'origine afro-américaine et qui ont eu comme Sugar Ray Robinson, comme Cassius Clay, comme Jack Johnson, qui ont eu pour beaucoup des destins un peu brisés, qui ont été à la fois très célèbres, très riches et très populaires. Donc, en fait, le boxeur qu'on peut reconnaître grâce à son poing, par exemple, est à peine esquissé. On le reconnaît parce qu'il y a le nom comme Jack Johnson ou Cassius Clay. Tout ça sur un fond monochrome, le rouge, un rouge uni pour Cassius Clay, Jack Johnson, et sur un fond blanc, ou Sugar Ray Robinson sur un fond noir. Mais l'épaisseur de cette palette contribue en fait à rendre ces boxeurs encore plus volumineux. C'est comme s'ils sortaient du mur et de la toile.
Tu connais des artistes noirs famous? Ça existe, les artistes noirs. Seulement dans les galeries semble qu'il n'existe pas. Ici, l'art, ce n'est pas une chose des gens noirs. Et jusqu'à Jean-Michel, Jean a donné la crédibilité à ça. Et j'espère nous aussi.
Ça, c'était important pour vous? Ça faisait partie d'une quête que vous aviez d'être reconnu en tant qu'artiste et en tant qu'artiste noir?
C'était pas des faits l'argent. Pour nous, c'était jamais là. Quand j'ai fait le métro, je n'ai jamais imaginé que quelqu'un m'y payait pour faire la graphe, quel que ce soit. Notre idée, c'était plus à changer l'histoire. C'était de faire l'histoire, de changer le corps d'histoire, d'être les artistes noirs, reconnus, qui ne sont pas venus dans le monde typique de l'université, l'école de l'art, qui, you know, à un moment, si tu regardes l'art européen, c'était un exercice des gens riches.
Est-ce que vous pensez que toutes les références que Jean-Michel Basquiat a pu mettre dans ses tableaux, la Vénus de Milo, à Picasso, à Dubuffet, à Billie Holiday, Charlie Parker, est-ce que vous pensez que c'était aussi pour prouver que quelque part il avait étudié peut-être autrement, mais qu'il y avait une légitimité derrière aussi?
Tu vois, ça c'est tout en une société où le racisme est une partie que quelqu'un qui est différent, noir, cet exemple, a besoin de démontrer son intelligence, tu vois. Et c'est comme nous, tout de suite, nous sommes les bêtes et stupides. La couleur n'a rien à voir avec l'intelligence. Jean-Michel était intelligent, net, bas, point bas. C'est rien à voir. Le mec était intelligent. Tu ne réponds pas à la stupidité, tu ne peux pas. Tu as besoin de démontrer d'être plus intelligent. C'est ça. C'est ça. Oui. Plus cultivé, plus référence. Oui, les références à Venus de Milo, à Picasso, peuvent démontrer que lui est compté, qu'il est sauvage. You know? Je me souviens de cette interview avec Jean-Michel. Le mec a dit, et Jean-Michel a dit, oui, tu me pompes un singe qui est sorti de la jungle. Et nous, on a rigolé. Parce que c'est ça. You know? Je pense que cette personne n'a jamais vu les gens noirs dans une ville. Je ne sais pas. On pensait que nous sommes arrivés avec pas en métro, mais avec les arbres. You know? Je ne sais pas. Sous les vignes. Je ne sais pas. Rigolo.
Jean-Michel ne voulait appartenir à aucune bande du lycée, ni celle des skateurs, ni celle des hippies. Il était très indépendant. Et ça m'a plu. Et puis il était moitié portoricain. Et il y avait peu de latinos dans notre lycée à l'époque. Alors on avait cet héritage en commun, tous les deux. On avait beaucoup de choses en commun. Même si lui était aussi à moitié haïtien par sa mère, ce qui n'est pas mon cas. Mais on avait des racines communes. Et surtout, on aimait beaucoup le langage. On inventait des expressions en spanglish. La plupart des choses qu'on faisait ensemble tournaient autour du langage. Beaucoup de travail sur les mots, sur la poésie.
Nous étions iconoclast pandurism, gothic futurism, gothic, oui.
Toxique. Artiste.
Et c'est plus une étude sur la formulation des mots, le pouvoir de la contrôle de la langue. Comme tu peux contrôler on manipulait les gens avec les formations des lettres de l'alphabet. C'est la pouvoir. Tout le monde sait, la pouvoir, c'est l'intelligence, c'est les lettres. Et à base, les lettres, c'est l'alphabet, c'est les... Tu écris les mots avec les lettres, et nous étions complètement dans les lettres. C'était des choses qui, comme la graphe, étaient écrites par nous. C'était les messages à nous, à les autres gens qui faisaient le graphe. C'était pas... Les gens normaux, c'était pas pour eux à lire. Ça, c'est une chose, des références à Gothic Futurism, tout le reste,
C'était un langage codé.
Oui, parce que nous vivions dans un monde qui était un peu codé. Ça, c'est une toile que j'en ai écrit, Mitchell Crew. C'est le nom de mon cité. Et c'est une toile que lui a fait en hommage à toutes mes amies. Et ça, c'est super beau.
Dans les images, est-ce qu'il y a d'autres toxiques, est-ce qu'il y a d'autres mots cachés que vous pourriez nous décoder, par exemple?
Ça, to repel ghost. Ça, c'était une toile que j'avoue que tu tout tombes dans la maison de Jean-Michel. C'était dans sa salon. Et to repel ghost. Quelqu'un a pensé que c'était to repel the spirits, les esprits. Et c'était pas ça. C'était to repel ghost.
Cette toile-là dont vous parlez, c'est... du bois peint en noir avec une bande blanche et écrit To Repel Ghost.
Oui, avec un trademark.
Avec en bas TM qui signifie trademark, une marque déposée.
Ouais.
Là, il y a beaucoup d'écriture aussi sur cette toile.
Mais c'est pas les ghosts. Les ghosts.
Les fantômes.
Les fantômes. C'est pas les fantômes, c'était le mot fantôme sur les îles en Afrique, c'est la description des légendes blanches. So, cette toile, dans la maison des gens, c'était, nous savons, mais c'était à repousser les gens blanches. Et c'était eux qui venaient prendre les toiles des gens, qui étaient là tout en demandant les choses, à chercher d'imposer une manière d'être.
Et personne ne peut vraiment imposer une manière d'être à Basquiat. Ni Vénus, ni Madonna, qu'il a rencontré dans les clubs de Manhattan, encore moins les différents marchands d'art du monde. Diego Cortez, Anina Nosey, Lamari Boungari, Tony Chafrazi et d'autres qui vont lui prêter des ateliers ou le propulser vers le succès. Non, le seul à qui il dit oui, c'est peut-être Andy. Andy Warhol, qui lui conseillera d'ailleurs de placer son argent et de s'éloigner de la drogue. Basquiat fréquente les artistes de sa génération comme Schnabel ou Kissaring, mais il reste fasciné par Warhol à qui il a vendu ses premières œuvres. Des cartes postales patchwork pour $1. Avec Kissaring et Mapplethorpe, il expose aux côtés de Warhol à la New York Wave en 80. Et quelques années plus tard, les deux boxeurs contemporains de l'art new-yorkais vont se retrouver côte à côte. Le dessin de Basquiat croise même celui de Warhol dans des œuvres à quatre mains. Edward Naem, galeriste, sur la 5e avenue à New York.
Basquiat est arrivé à un moment opportun dans la carrière de Warhol, car Andy commençait à douter de son travail et de sa carrière. Il ne peignait plus et il faisait beaucoup de commandes de portraits de gens riches à la Warhol. Je pense aussi que vu son âge et vu la tournure que prenait alors le marché de l'art, Andy se posait beaucoup de questions sur son avenir et sur sa réputation. Et voilà qu'arrive ce jeune artiste afro-américain qui a tant à dire et à montrer au monde. Donc Andy allait vers Jean-Michel et vice-versa. C'était une collaboration qui tombait à pic pour tout le monde.
Vous l'avez rencontré peu après qu'il ait commencé à travailler avec Andy Warhol. Est-ce que ça a été une rencontre importante pour lui? Est-ce qu'il vous en a parlé?
Oui, je pense que c'était très important pour Andy. Parce que ça l'a mis en contact avec une autre génération.
Lee Jaff, artiste.
Je crois qu'Andy aimait être avec Jean-Michel pour ça.
Je me souviens une fois.
Je me souviens d'une anecdote. Dans les années 80, je collectais l'argent de la vente d'herbe auprès des Rastas des ghettos de New York. Et ils avaient l'habitude de m'apporter des petits sacs de billets de 5 dollars. Ça correspondait au prix d'un petit paquet de l'époque. Et un jour, ça c'est vraiment incroyable, je suis tombé sur un billet de 5 dollars. Et en fait, c'était un billet de 1 dollar dont ils avaient remplacé les quatre coins avec quatre petits bouts de 5 dollars scotchés pour faire croire que c'était un billet de 5 dollars. Avec ce stratagème, ils avaient gagné 4 dollars. Je me suis dit, ah, c'est génial, c'est incroyable. Et Jean-Michel était en train de peindre avec Andy. Et je lui ai montré. Et il a dit, ah, on va demander à Andy de le signer. De le photographier. Et on l'exposera.
Quel était votre rapport à l'argent, justement? Parce que vous étiez déconnecté de l'argent, mais évoluant dans un monde où l'argent était coulé à flot. Il y avait beaucoup d'argent.
Jean-Michel ne vient pas d'une famille pauvre. Son père a étudié à l'université. Il a travaillé dans une banque. Jean-Michel a fréquenté une école privée. On essaie de tisser un mythe du bon sauvage devenu riche. Mais ce n'était pas ça. Même s'il avait choisi de commencer son art dans la rue. Toute son œuvre parle de cela, de ces deux mondes. C'est très politique. Son travail parle de cette différence entre les riches et les pauvres. Et il était bien placé pour parler de ça. Pour lui, c'était passionnant d'appartenir au monde de l'art, entre guillemets, et de fréquenter tous ces gens. Je pense que ça a nourri sa créativité de connaître ces deux mondes et leurs contrastes. Je pense que tout cela est au cœur de sa peinture.
Entre deux mondes, Kissaring l'était lui aussi. Il avait commencé dans la rue et tutoyait les sommets du monde de l'art. Il était très proche de Basquiat et d'Andy Warhol et il a été le témoin de leur amitié improbable. Comme Basquiat, Haring s'est senti orphelin à la mort de Warhol en 87. Il écrit « Jean-Michel et Andy étaient d'une génération et d'une origine sociale différentes. Jean s'est mis à peindre à la Factory. Il pouvait créer avec n'importe quel matériau, pourvu qu'il soit immédiatement disponible, et sur n'importe quelle surface, pourvu qu'elle soit immobile. C'était vraiment un événement. Il y avait des toiles dans toute la Factory, et Andy et Jean-Michel travaillaient sur plusieurs toiles en même temps. » La plupart des membres du groupe n'étaient pas vraiment ravis de la présence de Jean-Michel. Ils détruisaient leurs plans et remplissaient la Factory d'une odeur d'herbe. Mais Andy semblait heureux de défier leur conservatisme. Jean apportait cette malice qui semblait avoir disparu de la Factory et il imposait une atmosphère de production obsessionnelle.
C'était Dolce Vita Down, that's all you can say. C'était, on avait l'impression d'être épicentre de tout, le monde entier. On n'attendait rien de plus. Il avait les matériels, il avait assez de reconnaissance pour vendre, il était content. L'ambiance était intensement, l'odeur, je me souviens surtout de la peinture, l'herbe, la transpiration, les odeurs de matériel, la toile séchant, l'humidité, la fumée de la bonne herbe, les vins. C'était Dolce Vita Down.
Donc on a cette idée que vous faisiez que prendre de la drogue, pas tellement travailler, mais en fait c'était très important le travail.
Non, on prenait la drogue pour pouvoir travailler plus. C'était pas du tout le rejet de travail. C'était la graisse dans le moteur. C'était qu'on ne pouvait pas travailler autant sans la drogue. Mais le but c'était pas d'être stone, le but était de travailler. Alors moi et lui, je ne sais pas pour les autres, mais nous on avait un rythme dingue de 16 heures par jour minimum, mais tous les jours. On sortait pour une heure, deux heures, pour prendre un peu de l'air, pour prendre l'énergie de la ville, pour manger, pour danser, pour trouver les gens, pour les inviter, venir être autour de nous, parce qu'on avait tous les deux un désir social, mais le désir plus fort, c'était de c'était le désir de faire ces tableaux. Et de, moi, j'ai construit aussi vite possible, et lui, il les peignait aussi vite que je les ai construits. C'était comme un concours presque.
Tu sais, quand lui travaillait, lui s'est travaillé sur 4 ou 5 toiles à la même temps. C'était quelqu'un qui était hyper actif, man. You know? Moi, je ne me souviens pas beaucoup de fois que j'avoue Jean dormir. You know? Lui était tout le temps en action, à bouger, à changer un disque, à ouvrir la porte, à téléphoner, à répondre à la téléphone ou quelque chose. On n'était jamais, jamais sans faire quelque chose. C'est ça, quand je vois son travail tout le temps, je suis... c'est tout le temps beau, parce que je me souviens des moments exacts.
Like that fiction movie? Directed by, Julian Schnabel.
Dans le biopic sur Basquiat, réalisé par Julian Schnabel,
he seems like stumbling around,
on voit Jean-Michel déambuler,
and not very focused,
pas très concentré,
but in real life,
un peu dans la lune.
He was
Mais dans la vraie vie, il travaillait tout le temps.
In 8 years, he made
en 8 ans,
4,000
il a fait 4,000 dessins et 2,000 tableaux.
So, he couldn't have been stumbling around that
Donc
much.
Il n'a pas pu glander beaucoup.
He didn't really have time.
Il n'avait pas le temps.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez pris des vacances, l'IJAF, avec Jean-Michel Basquiat?
Vacances, oui. Summer 1983.
Oui, l'été 83.
He was taking vacation from painting. Dans cet moment, j'ai beaucoup d'argent. C'est pas problème. And we went the next day. We went to Tokyo.
Et le lendemain, on a décidé de partir à Tokyo.
He had a Issey Miyake photo shoot for Issey
Jean
Miyake.
Devait faire une session photo pour Issey Miyake.
So I remember they had all these, you know, photographers. Was in a studio.
Et je me souviens qu'il y avait plein de photographes, d'assistants,
art director,
des directeurs artistiques, tout ça.
And they put him in these really expensive clothes.
Et ils lui avaient prêté une veste en cuir et des vêtements qui devaient coûter des milliers de dollars.
And they wanted him with a some paint,
et il voulait qu'il pose avec un pot de peinture et des pinceaux.
So I said, Jean-Michel,
j'ai dit, Jean-Michel,
just start throwing the paint.
Vas-y, balance la peinture.
And so I started throwing the paint.
Et il a commencé à acheter de la peinture. Il prenait des photos. Mais la peinture a commencé à tacher tous les vêtements. Et l'équipe a vraiment flippé. Ils étaient fâchés. Parce qu'il y avait de la peinture partout. Mais après, on est allé au dîner avec Issey Miyake. Et personne ne parlait anglais. C'était très intéressant.
L'étape d'après le Japon, c'était...
We went to Switzerland.
Après, nous sommes partis en Suisse,
Saint-Maurice,
à Saint-Maurice.
Because Jean-Michel was had become friendly.
Parce que Jean-Michel
Andy
était ami avec Andy Warhol.
And Andy had a deal.
Et Andy avait un marchand d'art qui s'appelait
Bruno Bischofberger.
Bruno Bischofberger. Et Bruno avait invité Jean-Michel à passer quelques vacances chez lui à Saint-Maurice, un lieu de villégiature pour des gens riches.
So, okay, we'll go there.
Je dis, ok, on y va. On était censé être en vacances,
there,
mais quand on est arrivé, ce galeriste avait disposé plein de toiles sur châssis et des pots de peinture alignés pour que Jean-Michel fasse des tableaux.
So, Jean-Michel was
Donc Jean-Michel
really
était assez énervé parce qu'on était invité en vacances.
You know? So, they had a couch.
Ils avaient un canapé qu'ils venaient de refaire parce que les enfants l'avaient abîmé, je crois. Et alors j'ai suggéré à Jean de peindre sur le canapé.
Cette idée du canapé, ça n'a pas plu.
Je pense que Bruno a regretté que je sois venu, mais Jean-Michel lui a fait deux petits tableaux après.
Gratuitement?
Well, not for free. I guess Bruno would sell them and
non, pas gratuitement, hein.
Give Jean-Michel some money.
Mais Bruno a dû les vendre et donner sa part à Jean-Michel.
Vous avez fait beaucoup de voyages ensemble. Vous êtes allé beaucoup à Los Angeles.
Oui, nous sommes allés à Los Angeles, en Jamaïque. Nous sommes voyagés beaucoup ici, en ville. Les expériences ici en ville n'ont pas pris. Qui nous a fait plus que les voyages à Los Angeles ou en Jamaïque ou des choses comme ça. C'était seulement on a voyagé ici à New York ou de trouver dans les endroits où nous n'avons jamais imaginé d'être. You know? Je pense que tout le reste, c'était c'était en partie de la travail. You know. Tout le monde sait qu'à un moment, tu commences à vendre des pièces, tu espères de faire la Biennale à Venise, tu espères à les expos que tu voudrais faire. Ça, c'est pas changé.
C'est quoi ça?
C'est les gens à Tompkins Square Park. Ça change pas beaucoup ici. Comme ça.
Les junkies.
Je sais pas. Je pense pas, mais. Quelqu'un avec les problèmes. Tout le monde a les problèmes.
Donc, ouais, vous avez plus changé dans vos voyages à New York que dans des voyages à Los Angeles ou en Jamaïque.
Oui, parce que la ville change au moment que tu peux payer, tu as l'argent d'échanger. Et nous, à changer en New York comme ça, je me souviens quand nous étions dans cette parc à manger une pizza ensemble, à boire les bières ensemble et tout ça. D'aller à Mr. Charles, avec la table à la restaurant tout le temps, la limousine qui t'attend, d'aller dans les magasins, d'acheter les vêtements et tout ça, c'est un autre monde à New York. New York, c'est une ville, mais il y a plusieurs mondes dans cette ville, man. Complètement différente, you know. So, quand tu peux permettre d'échanger planète dans la même ville, c'est incroyable.
C'était la belle vie. Il y a eu un moment donné où c'était la belle vie. C'était comment?
Je ne sais pas si c'est la belle vie. C'est changé. Nous avons l'argent de manger, de payer le loyer, d'acheter les vêtements. Ça, c'était la plus importante. Nous avons un grand cercle d'amis. Et Jean avait beaucoup de filles autour de lui et tout ça. Dans le monde de l'art, tu n'appelles pas les groupies, mais tu as les filles qui sont tout le temps à les expos. Ouais. Mais à ce moment, nous étions jeunes, tout ça était nouveau. Et je pense que les dernières années de Jean lui a rendu compte les gens autour de lui, vraiment. Et pourquoi eux étaient là. A sorti toute la nuit, Jean-Michel a payé pour, c'est normal. Mais avec tout le temps des gens qui ont profité, que Jean a aidé, ça a rendu Jean triste. C'était les gens que lui croyait, c'était vraiment ses amis, et c'était pas ses amis. Et je pense qu'on lui avait cette réalisation que les gens ont usé seulement pour l'argent. Je me souviens, il était super triste. Toutes les fois qu'il lui a découvert une autre amie qui était seulement là pour l'argent. C'était vraiment blessé. Mais je sais, quelqu'un qui est déjà triste, tu as besoin de ne pas mettre les drogues en toi. Ça, c'est, you know, c'est évident, ça.
La dernière fois que j'ai vu Jean, il hurlait en bas de chez moi. J'ai dit, viens, monte. On s'est assis, on a parlé. Et il m'a donné un diptyque. Vous savez, une toile en deux parties. L'une disait pour ces mots, et l'autre de la part de ces mots. C'était comme une rédemption. Je n'ai pas vu ça comme ça à l'époque. Et j'ai mis du temps à comprendre. Parce que j'ai vendu ces toiles. Je n'aurais jamais dû le faire. Mais bon, c'est comme ça. Surtout que c'était vraiment un message pour moi. Je me demande si le collectionneur qu'il possède aujourd'hui a une idée de la signification de ces toiles. Je pense que pour Jean-Michel, revenir vers moi, qu'il connaissait depuis ses débuts, c'était parce qu'il se sentait consumé par sa vie, ses décisions, ses choix, et surtout celui de devenir une superstar et tout ça. Ce qu'il a toujours voulu être, d'ailleurs.
La drogue, ça lui permettait de s'échapper de ça?
That's what drugs are.
Oui, bien sûr.
Way of not dealing with yourself,
la drogue te sert à ne pas faire face à ta vie.
At the same time destroying yourself, so.
Mais en même temps, c'est une activité de destruction.
Injecting yourself with drugs is not a life activity, it's a death activity. Something that does not
S'injecter un produit n'arrange pas ta vie. Ça te rapproche de la mort.
Je crois que la drogue et tout ça commençaient à influencer son travail et ses décisions. C'est-à-dire à savoir avec qui il allait travailler, avec qui passer du temps, à qui donner des œuvres et à qui les vendre. Parce que tu sais qu'il avait une tendance à reprendre ses œuvres. Il faisait une crise, et puis il allait reprendre ses toiles dans les galeries ou chez des amis à qui il les avait données. En 87-88, Jean-Michel Basquiat revient au dessin, aux écritures et aux mots barrés des débuts. Moins de couleurs, des fonds souvent blancs et la répétition de motifs, comme dans Heroica, ce diptyque où sont entourés les mots femme, ballon, lieu, narcotique, banque, toilette. Heroica, comme la symphonie numéro 3 de Beethoven, Heroica, l'héroïne du quotidien. Sur d'autres toiles, les os, les squelettes, remplace petit à petit les corps humains sur lesquels on voyait à ses débuts des organes, le cœur, les poumons, le foie, comme autant de clins d'œil au livre d'anatomie Gray offert par sa mère après son opération de la rate. À la fin des années 80, toujours plus d'eau, toujours plus de squelettes, et à mesure que son propre corps s'amaigrit, plus d'eau, plus de squelettes, jusqu'à cette fameuse toile sur fond brun en 88, Riding with the Death. Chevaucher la mort, un corps noir sur un squelette d'os blanc. Quand on parle des squelettes et des os dans son travail, je pense tout de suite à la représentation de la mort et du corps qui redevient cendre. Et je pense que son extrême maigreur à la fin, ses épaules qui tombaient, c'était clairement dû à l'effet de l'héroïne dans son corps. Parce que là, tu perds du poids, impossible de manger. Et les os eux-mêmes commencent à se courber et à devenir proéminents. C'est classique de l'héroïne.
Cet accident qu'il a eu enfant vers l'âge de 9 ans l'avait beaucoup marqué dans son rapport au corps et à la maladie. Il avait failli mourir et on l'avait amputé de la rate. Il en parlait souvent.
En anglais, la rate se dit spleen, mais en français, c'est synonyme de mélancolie. Il était mélancolique?
Oui, énormément.
Melancholia, yeah, I think he had a certain sadness.
Il avait une certaine tristesse.
We have to remember that his mother.
Il faut se souvenir que sa mère a passé la majeure partie de sa vie dans un asile. Elle était inaccessible, elle était schizophrène.
She was very, you know, she's severely schizophrenic, and you know, and I think believe she was very, very instrumental in his early years.
Elle a été très importante dans son enfance.
The you know, museum.
C'est elle qui l'a emmené au musée quand il était enfant.
And I think that
qui lui a parlé d'art. Et je pense que cette absence a laissé un vide énorme dans son âme.
And he may have been heartbroken for most.
Je pense que ça lui a brisé le cœur toute sa vie.
I believe that. His father just recently passed, from what I understand.
Son père vient de mourir, je crois.
Yeah. They didn't have a very good.
Mais ils n'avaient pas de bonne relation, selon moi.
From, you know, from my observation, I think his father didn't want him to be.
Je pense que son père ne voulait pas qu'il soit ce qu'il était à cette époque. Il était marginal.
I don't think it was so much any particular career. It was just.
Ce n'était pas vraiment ses choix de carrière, mais un tout, son look,
the way he dressed, the friends he kept,
ses fréquentations,
everything but what
sa vie. C'était tout sauf ce qu'il aurait voulu pour son fils. Jean n'était pas le fils qu'il aurait voulu avoir.
He wasn't the son that he wanted.
Le 12 août 1988, Jean-Michel Basquiat revient d'une cure de désintoxication à Hawaï. Il est retrouvé mort dans son loft sur Great Jones Street à New York, la tête tournée vers le ventilateur, victime d'une overdose. Il avait 27 ans.
Le vieil studio de Jean-Michel, c'est un restaurant japonais maintenant. Je suis entré dans son vieil studio, son appartement où il vivait, et lui était trouvé mort. Et j'ai honte. Et quelqu'un qui était avec moi m'a demandé si Jean-Michel savait que nous étions là. Et moi, j'ai dit, écoute la musique. Et c'est passé à ce temps, un disque de Charlie Parker. Et j'ai dit, bien sûr, Jean sait que nous est là. Et j'ai parlé avec lui 2 jours avant de sa mort. Et
Lui, il semblait normal, je pense. Je pense pas jamais. C'est possible que tu sais prêt à mourir. Parce que nous, si blaguer, dès les jours que nous étions toutes vieilles, disaient les blagues sur les filles qui sortaient avec nous dans les années 80. So, je pense que personne a pensé de mourir. You know?
Une fois que tu disparais, les clichés que tu laisses sont ce que tu deviens pour la postérité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de la personnalité de Jean-Michel qui ont été gommés par la légende après sa mort. Mais je pense que certaines choses doivent disparaître avec toi. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout savoir. Il faut une part de mystère. Mais bon, si tes œuvres étaient la seule chose qui te survivait, ça serait génial. Tout le monde se la fermerait, laisserait les œuvres parler. Fantastique. Mais aujourd'hui, tout le monde veut commenter, critiquer, raconter, faire des blogs. D'ailleurs, si tu tapes Basquiat sur Google, tu verras, c'est assez hilarant.
During the 80s, artists got the art world kind of imploded.
Dans les années 80, le monde de l'art a implosé en star system.
Into the star system. And I felt that there was a pressure to repeat what I was doing.
Et j'ai ressenti une pression à répéter ce que je faisais. Alors j'ai fui, j'ai quitté New York pour Los Angeles. L'art était devenu un investissement. Il était contrôlé par le monde de la pub. On le voit aujourd'hui. Un artiste comme Jeff Koons est directement lié à Wall Street. C'était jamais arrivé avant. Je pense que si Jean-Michel était vivant, il ne peindrait peut-être plus. Je pense qu'il ferait probablement du cinéma. Il aurait encore agrandi la taille de sa toile. Yeah.
What it is. This is what it is. It's for the kings. This is for the all the kings. Keep them crowns.
C'était Une vie, une œuvre, Jean-Michel Basquiat, avec Al Diaz, ami d'enfance et moitié de Samo, Toxic, artiste, Steven Thornton, assistant, Lisa Cooper, styliste, Hervé Desrosa, artiste, Marie-Sophie Caron de la Carrière du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Jerry Lauren, collectionneur, Edouard Naem, galeriste, Nemo, artiste, Lee Quignonez, artiste et Lee Jaff, artiste, avec les voix de Jérôme Sandelard et d'Amaury Chardot, Une vue, une œuvre, Jean-Michel Basquiat, mixage Éric Boisset, réalisation Gaël Gillon, une émission d'Élodie Maillot, attaché de production Laurent Genepin, coordination Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il nous a récemment quittés. Hommage à Manu Dibango, à voix nue sur France Culture. Papa Manu pour certains, l'explorateur pour d'autres, le doyen de la musique africaine, saxophoniste et chanteur de world jazz avant même que l'expression n'existe, arrangeur, compositeur, chef d'orchestre, était un vrai bâtisseur de ponts, curieux et généreux. 5 entretiens en 2013 pour revenir avec ce monstre sacré sur sa vie, de son enfance au Cameroun à sa stature de musicien du bal planétaire selon ses propres mots. Manu Dibango à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
Étudiants et fans de bande dessinée, testez votre sens critique en devenant juré du prix BD des étudiants.
Mais Tintin, c'est le rythme!
Depuis chez vous, lisez 5 BD d'auteurs émergents sélectionnés par France Culture en version PDF.
Tac, 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 une case vous en amène à une autre!
Et votez en ligne pour élire votre lauréat.
Attention, vous avez jusqu'au 17 mai pour candidater.
Plus d'infos sur les pages Facebook, Twitter, Instagram du prix BD des étudiants et sur franceculture.fr.